Quelques mots d'introduction pour dire à Pierre Boulez tout le plaisir que j'ai à l'accueillir aujourd'hui au Collège de France. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait déjà 7 ans que je suis ici et que je ne l'ai jamais vu au Collège de France et que j'avais envie de l'y voir revenir. Parce qu'il y a passé très longtemps, une 20aine d'années, et pas nécessairement dans cet amphi qui n'existait pas encore, mais qu'il a dû connaître. L'autre raison, c'est un souvenir que j'ai d'un séminaire qui avait eu lieu à l'IRCAM en 1978 avec un certain nombre de professeurs du Collège de France. Sur le temps musical. Et il y avait Roland Barthes, qui était professeur au Collège de France à l'époque, il y avait Michel Foucault, et il y avait Gilles Deleuze, qui a ensuite écrit un texte très beau, très intéressant, sur le temps musical, un texte dans lequel il parle justement de Proust. Et c'est l'un de ceux qui me faisait souhaiter vous interroger sur Proust et sur votre lecture de Proust, sur l'influence qu'il a pu avoir sur vous. Alors, je rappelle simplement que vous avez été professeur au Collège de France de 1976 à 1995. Je rappelle aussi, évidemment, que beaucoup de votre œuvre de compositeur est inspiré par la littérature, marqué par la littérature, mais peut-être moins Proust que la poésie, puisque c'est René Char, c'est Mallarmé, c'est Michaud qui sont plus directement, source d'un certain nombre de vos œuvres. Reste que vous vous êtes souvent réclamé de Proust, notamment des rapports de Proust et de Wagner, et c'est sur tous ces sujets que nous pourrions avoir une conversation. Alors, je vous avais envoyé quelques questions, on peut peut-être les parcourir. La première question que je voulais vous poser, c'était tout simplement celle que j'ai posée à tous les invités de ce séminaire cette année, puisque j'ai choisi dans ce séminaire d'inviter des non-spécialistes de Proust, avec l'idée que la littérature n'est pas la propriété des littéraires et que tous les autres qui la lisent en lecteur s'en inspirent aussi dans leur vie et dans leur métier, quotidiennement et de manière essentielle. Donc la première question, c'est celle-ci. De quand date votre première lecture de La recherche du temps perdu? Dans quelles conditions elle s'est faite? Et qu'est-ce que vous y avez trouvé lors de cette première lecture?
Je dois dire une première chose, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas intéressé beaucoup par Proust, parce que j'étais fasciné surtout par Kafka d'une part, et le fameux livre Ulysses de Joyce, qui a été une révélation pour ma génération. Nous étions très tournés vers la littérature, disons anglo-américaine. Et c'est pourquoi, je fais une comparaison toujours avec Proust quand même. C'est que la technique de Proust est une technique qui se cache, ou qui essaye de se cacher du moins. Tandis que la technique de Joyce était au contraire d'avouer la technique. Et que certains chapitres, par exemple le dernier chapitre, était un chapitre qui était une espèce d'immense phrase, qui était une façon vraiment très, très définitive de couper la notion de chapitre. Il y avait au contraire des questions comme des chapitres qui étaient des chapitres de foule. Il y avait des chapitres qui étaient sur la grammaire, il y a des chapitres, etc. Cette allusion à l'Odyssée était aussi basée sur un phénomène grammatical. Et ça nous impressionnait beaucoup. Tandis que le phénomène grammatical n'est pas vraiment la ressource de Proust, je dirais, pour moi en tout cas. C'est une technique de passer d'un... il a la technique, comme Wagner, de la transition. C'est un maître de la transition. Et ça, c'est pour nous, pour moi, c'était le grand forte de Proust. Mais ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. Ça m'intéressait plus tard, curieusement. Et alors que je n'avais pas, non pas épuisé Joyce, ni encore moins Kafka, mais c'est ce qui m'intéressait, c'était de revenir à Proust pour savoir pourquoi il m'intéressait, malgré tout. Alors je l'ai lu d'abord, parce que là, c'était paru dans la collection Blanche, je l'ai lu dans la collection Blanche. Et j'avais pas mal de copains qui on trouvait difficilement cette collection Blanche. On se passait les livres et il me reste encore peut-être 3 ou 4 livres dépareillés de cette collection Proust que je relis pour simplement avoir le goût de ces années passées. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans ma réaction et dans une réaction plus ou moins collective, la société que Proust décrivait ne m'intéressait pas. La société que Joyce me décrivait dans Dublin était une société qui était plus proche de moi, puis qui m'intéressait davantage. Il y avait une espèce de proximité de la vulgarité, oui, en effet, qui était vraiment très indispensable. Tandis que Proust, c'est toujours, malgré tout, sur des gens qui ont de la facilité et de la ressource à proximité. Je veux dire, les héros de Proust n'ont jamais de problème d'argent. Les héros
Joyce
ont au contraire toujours font partie d'une société qui est plus générale, plus vaste, plus réelle, plus réaliste même. Mais si on compare Proust et Zola, on se dit Zola a fait, ouais, en effet, il a plongé dans la société. Mais quand on lit ce que Proust écrit sur la peinture et ce que dans son livre Zola écrit sur la peinture qui a tellement choqué le pauvre Cézanne, on voit que l'analyse est très superficielle. Et les choses qui nous impressionnaient pour leur rapport avec la société étaient des choses qui finalement ne sont pas très profondes et on peut se débarrasser de ça très vite. Tandis qu'on ne se débarrasse pas de Proust si vite qu'en disant qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Il y a quelque chose de pénible même dans l'analyse de Proust. Vous parliez de sadisme, mais je trouve que le sadisme est envers lui-même d'abord. C'est ça personnellement auquel je suis le plus sensible, c'est de voir combien ce personnage peine et à s'analyser. Dans les endroits les plus difficiles de sa personnalité et combien il le fait avec une vigueur et une espèce de cruauté vraiment terrible. Et c'est pas non seulement... Et puis, je voulais aussi toucher autre chose, c'est que c'est un livre qui nous a fascinés à un second étage de son existence. C'est que il fait l'œuvre, il écrit son œuvre. D'abord, il décrit les anecdotes, le repas à Combray, etc. Mais au fur et à mesure, on voit que c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment il va créer une œuvre d'art. Et à la fin du livre, on pourra dire. Voilà, j'ai fini mon histoire, voilà l'œuvre que ça a donné. C'est-à-dire qu'il écrit l'œuvre en même temps qu'il décrit l'œuvre, et qu'il décrit le processus de faire l'œuvre. Ça, c'est une chose qui était très nouvelle en même temps ce qu'on voit quelquefois dans la peinture, Velázquez en particulier, vous parliez du miroir, et les tableaux de Velázquez avec le miroir sont pour moi une réflexion de Proust. Le peintre qui se voit dans le miroir et qui décrit ce qu'il voit autour de lui, tout en décrivant en même temps lui-même sa position et dans Proust, évidemment, toutes les complications qu'il peut avoir. Voilà, moi, ce qui m'a intéressé dans Proust. Mais je dois dire qu'il y a des gens qui me fascinent encore davantage. Je veux dire, j'ai relu le début de l'Amérique de Kafka après 10 pages ou 15 pages, vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Et vous seriez incapable de refaire le mécanisme de cette progression. Tandis qu'il y a toujours un espoir chez Proust, c'est de le suivre. Et de le suivre, non pas les yeux fermés, mais les yeux bien ouverts, et de voir comment il vous mène. Tandis que moi, dans Kafka, il y a quelque chose qui m'étonne chaque fois, c'est que on se trouve avec des personnages, les mêmes personnages plus loin, dans des situations complètement incongrues, et on ne sait pas comment il est arrivé, en sautant de phrase en phrase, comment il est arrivé à vous mener où il veut vous mener. Mais ça, c'est un point de vue tout à fait personnel.
Vous dites dans ces entretiens qui sont publiés dans Éclat, oui, où vous parlez de Proust, vous dites que, au fond, ce n'est pas le début de la recherche du temps perdu que vous préférez. Vous dites même, je crois que vous n'aimez pas trop le début. Que vous n'aimez pas trop le début de la recherche, justement parce qu'on n'est pas perdu dans le début. C'est encore trop narratif, trop anecdotique, traditionnel. Mais évidemment, vous venez de nous dire que, au fond, vous avez lu Joyce avant de lire Proust.
Oui.
Donc, ayant lu Joyce avant Proust ou Kafka avant Proust, d'une certaine façon, Proust pouvait paraître plus traditionnel, plus daté. Je crois que vous dites même que le début vous paraît daté et que c'est la suite qui vous a intéressé, oui, davantage. Oui. C'est la manière dont l'œuvre devient, comme on disait, métalinguistique,
oui,
parle d'elle-même, ou réflexive. Au fond, c'est le Proust formaliste qui vous a,
oui,
intéressé.
La façon dont il dit, par exemple, dans le dernier chapitre, quand il dit, voilà, j'ai fini mon œuvre, finalement.
Oui.
C'est comme ça qu'il le dit, aussi simplement. Et on voit que il a créé une illusion tout le long de son livre. Il a créé une illusion comme quoi il était le peintre qui peint. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est l'illusion qu'il a. Il n'a rien bougé, il n'a rien fait, il a écrit toujours ses descriptions, etc. Mais il a, disons, créé tout son monde, et voilà le monde qui m'a intéressé. C'est-à-dire que sa dernière phrase résume, au fond, son désir de créer une œuvre, et une œuvre solide, bien sûr. Et au fond, ce qu'il a aussi, curieusement, on a rarement vu, aussi chez Joyce aussi, on a rarement vu quelqu'un qui soit aussi économe avec son existence. Parce que son livre, c'est son existence. Et par exemple, quand on connaît la biographie de Proust, ce qui est intéressant par moments, pas toujours, naturellement, mais on voit comment il a transposé tous les événements qui lui sont arrivés, y compris les événements amoureux, qu'il a transporté ça dans le roman. Et c'est une hyper-biographie, hyper-autobiographie. Moi, c'est comme ça que je le conçois, que je le vois, en tout cas. Parce que les quelques anecdotes qu'on peut connaître, il y en a pas mal quand même, sont toutes, par exemple, mises dans le livre au fur et à mesure. Et ses rencontres aussi, ses rencontres avec Renoir sont intéressantes de ce point de vue-là, ou avec Monet, sont intéressantes parce qu'il a tout placé ça dans une conversation avec les jeunes filles en fleurs qui, je crois, n'était pas spécialement intéressé à entendre le discours sur Elstir. Mais il a placé ça parce que c'est sa biographie, et c'est sa biographie qu'il veut mettre dans le livre.
Donc vous vous intéressez à la biographie, de manière pas centrale, mais...
Non, je m'intéresse à comment il a transposé.
Comment elle a été transposée.
Comment il a reconstruit son existence, mais d'une façon artificielle, bien sûr.
Vous insistez aussi sur la dimension inachevée de cette œuvre comme motif de votre intérêt.
Oui.
Si elle, au fond, ce sont les volumes de l'inachèvement qui vous ont plus séduit.
C'est la vitesse de l'inachèvement, surtout. Je veux dire, il y a un moment donné où on sent la mort constamment. Même dans des choses anodines, on sent la mort constamment, et la mort le fait précipiter, le fait confus, le fait ne plus regarder à l'exactitude, spécialement avec la guerre. Il change complètement les villes de place, si je peux dire, au point de vue géographique. Ça n'a plus aucun sens du point de vue géographique, mais ça a son sens, un sens par rapport à sa biographie.
J'ai remarqué dans un autre entretien que vous avez prêté attention aux brouillons, aux esquisses qui ont été données dans les dernières éditions.
Oui.
J'en ai montré quelques-uns de ces brouillons.
Oui.
J'ai eu l'impression que ça vous intéressait de voir comment les soubassements de l'œuvre.
Non seulement ça, ça m'intéressait de voir le temps jouer avec ça.
Oui.
Parce que, par exemple, d'après ce que j'ai lu dans cette édition de la Pléiade, la nouvelle édition de la Pléiade, Tadi explique qu'il a transposé, par exemple, certaines anecdotes entre deux personnages complètement différents à un moment complètement différent. C'est-à-dire que ce qui compte pour lui, c'est l'anecdote en tant que telle, en tant que signification profonde de son écriture. Mais en même temps, est-ce que je vais le placer entre Madame X et la Duchesse une telle, ou bien si je la place entre Charlus et le narrateur. Il y a quelque chose qui j'exagère là en ce moment, mais il déplace des anecdotes et il les place entre des personnages qui n'avaient au départ rien à voir avec ça. Mais il reforge tout ça dans une façon qui est intéressante parce que l'anecdote en effet prend plus de signification. Mais on ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'il n'a pas transformé. D'après ce que j'ai lu aussi dans cette édition, les pavés inégaux arrivaient presque tout de suite au début du roman. Si on lit le roman, on ne peut pas imaginer ça. On imagine, si vous voulez, un roman qui peut recommencer, comme le Joyce, mais on ne peut pas imaginer que cette anecdote qui est si significative d'un moment de découverte d'une nouvelle organisation de la société, comment se fait-il qu'il ait pu déplacer complètement l'anecdote? Est-ce que vous avez une explication?
C'est quand même la découverte progressive de ce que vous appelez la grande forme.
Ah oui.
Elle est découverte peu à peu. C'est vrai que Proust travaille avec des morceaux, des fragments, j'en montrais un tout à l'heure. La lecture de l'article du Figaro, elle était l'ouverture du Contre Sainte-Beuve, et puis dans le roman tel qu'on le lit, elle se trouve à la page 2000 ou 3000 dans Albertine disparue. Et c'est aussi la recherche du moment juste. Il y a une dimension de probabilité, de
oui,
hasard,
de coup de génie.
Et puis il y a vous parlez beaucoup de cette grande forme, de la solidification de la grande forme.
Oui.
Et moi, il me semble que lorsque les épisodes bougent, en fait, c'est très musical. C'est pour créer des échos, des répercussions. C'est un jeu avec un.
Non, mais Wagner n'a pas fait beaucoup ça, très souvent.
Comment ?
Wagner n'a pas déplacé ses épisodes très souvent. Il s'est tenu même, c'est très curieux, mais il a écrit le livret du Ring, en particulier, dans les années 50, 1850, 1840-50. Et quand il compose, c'est les années, au contraire, 1870 et quelques. Et là, on ne voit pas du tout, disons, le changement qu'il apporte dans la chronologie. Mm-hmm. La chronologie est respectée totalement, chaque fois. Donc, son dramatisme était beaucoup plus rigide mm-hmm. que celui de Proust. Celui de Proust admet que vous le troubliez et prend une autre signification.
Oui, dans l'atelier de Proust, tout peut bouger.
Oui, oui.
Et c'est finalement figé au moment de la publication, au dernier moment.
Oui, au dernier moment. Oui.
L'une des choses qui me semble les plus frappantes, c'est donc du côté de chez Swann, au dernier moment sur les épreuves, avec deux personnages, n'en faire qu'un.
Oui, oui.
Vinton,
oui.
Le naturaliste, et Berger, le musicien,
oui,
et puis ça donne Vinteuil,
oui.
Le musicien. Bon, on peut dire d'une certaine façon, c'est un coup de génie, en relisant les épreuves, voir, c'est plus fort, c'est plus frappant,
oui.
Si c'est le même.
Oui.
Il se trouve que ce même, c'est justement un musicien.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de Vinteuil ?
Ah, alors là, c'est difficile, parce que la fameuse sonate n'a jamais été écrite.
Oui.
Donc c'est difficile de porter un jugement sur quelque chose qui n'a jamais été écrit. Non, je crois que, je vais vous dire, pour moi, Vinteuil, c'est un personnage fictif, artificiel. Il n'a pas jamais composé de musique, ce pauvre Vinteuil.
Il était naturaliste au départ.
Oui, c'est ça, et ça se sent, curieusement. Vous voyez, ici, il faut comparer ce qui est comparable. Il y a deux textes pratiquement sur la musique de Proust. Il y a Vinteuil, donc la création du personnage de Vinteuil. Et deuxièmement, il y a la part du chapitre qui est consacrée à Wagner quand il explique à la prisonnière.
Dans la prisonnière.
Le prélude du troisième acte de Tristan
est
composé. Alors là, dans Vinteuil, on peut mettre n'importe quoi dessus. On a dit la sonate de Franck, la sonate de Debussy, etc., etc. C'est rien. C'est comment Proust imaginait qu'un compositeur travaillait. Il y a de la différence quand même entre un écrivain et un musicien. On ne pense pas de la même façon. On pense forme tout de suite en musique parce qu'on est obligé de penser forme et éléments de vocabulaire, tandis qu'il y a beaucoup de choses qui, dans l'écriture, viennent naturellement, on n'a pas besoin d'y penser même. Et dans le texte sur Wagner, prélude de Tristan, prélude du troisième acte de Tristan, on voit que là, il a suivi, il a décrit vraiment, littéralement, la façon de faire, et qu'il a compris cette façon de faire, mais qui n'a pas su la mettre dans son livre d'une façon convaincante. C'est la résonance que cette sonate a dans le livre, ça, la résonance est bien, est bien captée. Mais le phénomène lui-même, la sonate elle-même, n'existe pas. Je m'excuse, mais elle n'existe pas.
Et l'analyse de la transformation de la sonate au septuor à la recherche d'une forme plus complexe.
Même chose.
Vous ne croyez pas non plus.
Il a dû entendre le septuor de Saint-Saëns, qui était très populaire à l'époque, et ça lui a donné l'ingéniosité. Peut-être le chiffre septuor l'a attiré, parce que 7 est un nombre impair qui approche de la perfection. Qui approche la perfection du 8. Mais non, je pense que il n'y a pas de différence du tout. Quand il dit que pour les instruments, il y a plus d'instruments, donc il y aura plus de couleurs, c'est très bien, on peut le savoir, sans poser 7, ni 3, ni 1. Non, là, je ne suis pas du tout convaincu là, par ça. Parce que quand il a parlé de musique, il faut qu'il parle de la musique. Mais lui-même était un musicien. Écoutez, pour confondre Rinaldo Hahn et Debussy, il y a quand même...
Alors c'est ça, vous parlez aussi de son mauvais goût. Il y a le mauvais goût de Proust.
C'est pas du mauvais goût, même. Vous ne pouvez pas ajouter trois fraises à une pomme. Enfin, il n'y a rien à faire. Ça ne fait pas quatre.
Renan Lohan est à la mode cette année. On le joue.
Oui, mais on joue bien parce qu'on fait des révisions comme ça de temps en temps. Des révisions qui ne vont pas très loin, de toute façon. Écoutez, il suffit de comparer. Il y a un poème qui est mis en musique par Renan Lohan et par Fauré. Les deux. Le ciel est par-dessus le toit. Dans Fauré, c'est une des meilleures pièces qu'il a écrites au point de vue de son lead. Ce n'est pas non plus ce que j'aime à la folie, mais c'est très bien composé et il y a une superposition des phrases presque indépendantes de la ligne mélodique chantée qui est vraiment très intéressante et bien faite. Si vous allez au recueil de Renan Lohan, où c'est un des poèmes mis en musique aussi, là on voit la vulgarité même. Ça ne se corrige pas. Il y a quelque chose qui ne peut pas. Du reste, on sent très bien qu'il était mal à l'aise à cette époque-là. Il se tient à Wagner, parce que Wagner, c'est du solide. Et du solide depuis longtemps déjà. Mais sur les autres choses, même sur Debussy, il aime beaucoup Pélias et Mélisande. Mais du reste, il n'en parle pas. S'il parle une fois de Martyr Saint-Sébastien, où il parle des petits pets de Debussy, excusez-moi, mais c'est tout à fait ce qu'il dit. Parce qu'il n'aime pas le texte d'Annunzio, et c'est vrai que la musique de Debussy dans tout ça disparaît au point de vue du volume même, au point de vue de la longueur. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Stravinsky, la rencontre a été ratée complètement, parce que il faut dire qu'on ne pouvait pas éviter la présence des ballets russes à l'époque. Les ballets russes envahissaient tout. Bon, alors Proust s'approche de lui et lui demande: qu'est-ce que vous pensez des derniers quatuors de Beethoven? C'était la chose à ne pas demander, parce que c'était le type de snobisme, c'était d'être austère en musique et de ne goûter parmi les quatuors que les quatuors de Beethoven. Alors, je ne sais pas ce que Stravinsky a répondu, mais il l'a envoyé balader, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contact avec un musicien vraiment de sa génération, du reste, un musicien provocateur. Et même Richard Strauss, il n'en parle jamais. Et Strauss était probablement le seul musicien allemand qui était populaire en France ou qui était bien connu en France. Donc on voit qu'il y a, son contact avec la musique a été un contact personnel avec certaines œuvres ou certains passages d'œuvres. Point final.
Donc son goût pour les derniers quatuors de Beethoven, vous le semblez...
Excusez-moi, mais c'est un goût snobinard.
Un goût snobinard.
Si je peux dire. Parce que il était à la fois sincère et snob. Je veux dire, il voulait, parce que les coutures de Beethoven ne sont pas toujours aisées, en effet, à entendre. Il voulait prouver qu'il était un beethovenien. Et pour ça, il avait la possibilité de convoquer un couture dans sa chambre le soir et de le faire jouer deux fois ou trois fois de suite, jusqu'à ce que les gens n'en puissent plus, tout simplement. Mais c'est une chose qui ne l'a pas conduit vers quelque chose d'autre. Peut-être que s'il avait eu le temps, s'il n'était pas mort à cet âge auquel il est mort, peut-être il aura en effet un passage sur les quatuors de Beethoven, comme il y a eu le passage sur Wagner. Mais ce n'est pas dans le livre, en tout cas, pour le moment. À moins que vous trouviez des esquisses encore.
Oui, on peut peut-être trouver des passages. Vous dites dans un de ces entretiens que vous reconnaissez une influence de Proust sur votre œuvre et vous la comparez à celle de Wagner sur Proust.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Pour la longueur et la forme, tout simplement. C'est aussi simple que ça, parce que les Français en général, remarqué, sauf dans le côté réactionnaire comme Vincent Dindy, etc., n'ont pas été influencés beaucoup par le romantisme allemand. Excusez-moi.
Vous voulez un peu d'eau ?
Non, ça va aller. Ça... C'est passé. Merci beaucoup. Les Français se sont révélés plutôt dans la petite forme, dans la forme courte. Oui. Dans une forme très pointue, mais courte. Tandis que les Allemands se sont révélés peut-être avec moins d'originalité dans le matériau, mais plus d'originalité dans le fait d'écrire des œuvres où la forme était, disons, beaucoup plus complexe d'ailleurs, beaucoup plus longue et beaucoup plus contrastée aussi. Si vous prenez deux musiciens qui sont à peu près de la même époque, c'est-à-dire Mahler et Debussy, même dans la seule œuvre de Debussy qui est longue, qui est La Mer, vous ne trouvez pas du tout la longueur rhétorique de Mahler. J'écoutais encore il y a quelques jours la deuxième symphonie, même un scherzo qui est assez court, relativement court, est beaucoup plus développé qu'un scherzo chez un Français, même chez Ravel par exemple, si vous avez l'Alborada del Gracioso qui est une sorte de scherzo, vous n'avez pas cette forme amplifiée qui a, et qui vous mène sur des territoires qui étaient complètement absents de la musique en général et de la musique française en particulier.
Donc c'est ça qui vous a particulièrement impressionné chez Proust.
C'est ça qui m'a particulièrement impressionné.
On revient à cette idée de grande forme.
De grande forme, de développement qu'on peut soutenir dans la longueur. Mm-hmm. Et ça j'admire beaucoup alors, au contraire. Mm-hmm. Ce qu'on trouve en général de très ennuyeux chez Proust, moi c'est ce que je trouve le plus intéressant. Quand à partir d'une phrase, il arrive à faire la partie d'un chapitre. Je vous dis, ce développement sur Wagner est intéressant. Il n'y en a qu'un qui est de ce niveau-là dans toute la littérature française. C'est la lettre de Baudelaire.
C'est
la lettre de Baudelaire.
La lettre de Baudelaire.
La lettre de Baudelaire sur Wagner,
Wagner.
Est absolument extraordinaire. Mm-hmm. Surtout à l'époque où ça a été écrit, 1850, 1860. Mm-hmm. Là, vraiment, c'est extraordinaire. Et Baudelaire avait compris la forme de Wagner. Et il le sent. Et il pressent même certaines données qu'il n'a jamais pu entendre, évidemment, qui est des Parsifal. Parsifal n'était pas encore composé, même à l'état d'esquisse à l'époque. Mais il a prévu cette dimension religieuse, mythique, mystique, que Wagner a pris vers la fin de sa vie.
Donc, vous pensez que le rapprochement qui est fait entre Wagner et Proust est un peu artificiel aussi ? Ou que Proust a compris quelque chose de Wagner ?
Ah oui, ça certainement.
Oui. Dans ses pages de La Prisonnière.
Dans ses pages de La Prisonnière, oui.
Ça, qu'il a...
Alors, il n'a peut-être pas, analysé complètement, disons, la dramatique de Wagner, parce que c'est une dramaturgie qui est difficile et qui est longue, qu'il faut expliquer, parce qu'il y a beaucoup de rapports avec un thème ou avec un autre thème. Si vous avez le temps, prenez l'introduction du dernier des Ring.
Oh Dieu. Crépuscule des dieux.
Dans Wagner, j'ai un trou de mémoire là, vraiment.
Le crépuscule des dieux.
Comment ?
Le crépuscule des dieux.
Crépuscule des dieux, merci. Pourtant, je devrais le savoir. Le crépuscule des dieux, le premier tableau, tableau des Nornes, avant que le drame commence. Le tableau des Nornes est une rétrospective totale du Ring. Oui. Et même de ce qui s'est passé dans le premier acte et le deuxième acte, mais ce qui s'est passé avant, qui a justifié le premier et le deuxième acte, et le premier et le deuxième volet. Eh bien, vous avez donc les Nornes racontent à L3, elles racontent, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, etc. D'abord, les gens se demandent pourquoi, mais pourquoi a-t-il répété tout le temps ça ? C'est répété aussi dans les autres actes. Ben, c'est rasoir, on le sait que celle-là fait ceci, celle-là fait cela, etc. Bon, très bien. Mais il implante la dramaturgie dans le réel. Ce qui est terrible dans les autres opéras en général, c'est que ces gens se présentent comme des marionnettes. On roule un tout petit peu les doigts et on croit que ça vit. Ça ne vit pas du tout. Ça vit sans profondeur. Mmh. Tandis que là, c'est, chez Wagner, il y a une profondeur du terrain qui est vraiment remarquable. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que l'exemple de la composition de cette scène des Nornes est vraiment extraordinaire. Vous avez, c'est une espèce de repenser de nouveau de tous les thèmes, des leitmotifs de ce qu'on a entendu déjà. Et il n'y a pas une chose qui n'est pas un leitmotiv, pratiquement. Alors, il y en a qui sont reconnaissables tout de suite, qui sont volontairement reconnaissables. Il y en a d'autres qui sont extrêmement, disons, volatiles. C'est-à-dire qu'on les entend comme ça, on n'est pas sûr si on les a entendus ou non. Mais tout le texte musical des Nornes est un retravail sur
leitmotifs. Les motifs jusque-là,
oui. Du reste, ce que Berg appelle Erinnerungsmotiv, en allemand, c'est-à-dire les motifs du souvenir. Et en effet, et tous les bons auteurs après Strauss et Berg et Schoenberg ont utilisé ce système. Parce qu'il est impossible de soutenir une longue dramaturgie sans avoir ces nerfs qui irriguent le corps musical.
Et vous pensez que Proust a réussi ça dans le...
Et Proust a réussi ça dans la...
A créer ces motifs, qui ont une relative autonomie.
Qui semblent par moments d'une grande banalité.
Oui.
Quelqu'un qui a un tic, par exemple. Oui. Bon, un tic, ça, on ne va pas déduire la psychologie d'avoir un tic comme ça. Mais ça vous situe le personnage, vous n'y pensez plus. Vous savez qu'il est là. Et ça, Proust a réussi vraiment beaucoup.
Et c'est aussi ça qu'il constate lorsqu'il travaille jusqu'à la dernière minute. Ce type de répercussion, de rapport, de corrélation qu'il crée partout jusqu'au bout.
Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important chez Proust, en tout cas de bon point de vue de musicien, bien sûr. Ça.
Oui, et on peut dire que ça a quelque chose de musical, dans la mesure où il crée avec cette matière de plus en plus de formes. De plus en plus de formes. Quand on voit les brouillons de Proust et tous ces fragments, on a un sentiment d'informe.
Ah, tout à fait. Mais du reste, c'est informe encore. Ça rentre dans la forme, même avec des arrangements, quelquefois. Il modifie un peu l'anecdote de façon à pouvoir entrer cette anecdote dans le corps du récit. Mais c'est vrai que... Vous savez, vous venez de prononcer un mot qui me frappe, parce que, en effet, les leitmotifs sont informes. Informes. Vous avez ces leitmotifs, en général, sont des arpèges constitués d'éléments très élémentaires. Donc, ils ont deux qualités. Vous les pouvez les replacer partout, la première chose, et vous pouvez les agripper sur n'importe quoi. Parce que très souvent, dans Wagner, le changement du leitmotiv vient, par exemple, en son milieu, il est agrippé à un autre motif. Et tout d'un coup, son sens change complètement. Le sens change et vous avez la continuité du discours qui peut continuer sans interruption. Donc, le leitmotiv n'est pas seulement ce qu'on trouve dans le Rheingold, dans l'Or du Rhin, mais c'est ce qu'on trouve surtout vers la fin. Et du reste, curieusement, comme il n'avait pas besoin d'implanter les personnages aussi profonds, dans Parsifal, ce système aussi fort est abandonné. Mmh. Il n'est pas abandonné complètement, mmh. Il y a toujours des leitmotivs, bien sûr. Mais je veux dire, il n'est pas aussi serré que dans le ring. Parce qu'il n'a pas besoin d'être aussi serré, étant donné qu'on se rappelle très facilement les personnages.
Au fond, il y a deux mémoires. Il y a cette mémoire involontaire, proustienne. J'ai l'impression qu'elle ne vous intéresse pas tellement.
La mémoire involontaire. La Madeleine.
La Madeleine et tout ça.
Oui. On en a entendu tellement parler de cette Madeleine, vraiment. Et alors que c'est un bout de pain, trois cuits.
Une biscotte.
Oui, une biscotte.
Dans les brouillons.
Finalement, la biscotte serait plus intéressante.
Et puis, il y a cette autre mémoire qui est la mémoire qui s'élabore dans la forme même de l'œuvre.
Oui.
Et c'est ça qui est passionnant.
Oui.
C'est ça qui est passionnant, c'est de pénétrer dans une forme qui est une forme de mémoire.
Oui, qui est une forme de mémoire, qui est une biographie sans être une biographie, tout en étant une biographie. Tout simplement. Et ça, c'est passionnant. Et c'est le seul qui a fait ça. Balzac sur la longueur. Balzac a été une très grosse influence sur Wagner, comme vous savez. Et donc, il a capté ça de Balzac, de décrire une société.
D'ailleurs, dans cette page de La Prisonnière à laquelle vous tenez tant, Proust associe ses grandes œuvres du XIXe siècle que sont celles de Michelet, celles de Balzac, celles de Hugo et celles de Wagner. Hein, ces œuvres où, dit-il, l'unité est rétrospective par un coup de génie. Mais lui dit qu'il veut une unité préméditée, une unité... Proust dit que pour lui-même, il ne veut plus de ces unités Balzac ou Wagner.
Oui, il a inventé la forme continue. Oui. De même que Wagner a inventé la forme continue, malgré tout. Ce n'est pas suffisant de vouloir. Je veux dire, il y a aussi à un moment donné où son livre s'est tellement répandu dans très loin du début. Si on compare le plan primitif et l'absence de plan final, c'est très frappant.
C'est une œuvre en expansion.
C'est une œuvre en expansion.
Mais ça vous intéresse.
Oui, ça m'intéresse, mais en expansion comment? C'est ça le problème. C'est que malgré tout, vous pouvez pas... Ou alors vous écrivez une œuvre. De reste, c'est ce qui est arrivé à Joyce. Ce qui est arrivé à Joyce, c'est qu'il a passé tellement de temps sur son second livre qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Et que comme c'était bloqué à la fin, il a recommencé au début. Si bien qu'il s'est dit, c'est perpétuel. Mais ce n'est pas perpétuel, c'est encore un début et une fin.
Mais Proust n'a écrit qu'une seule œuvre. Il n'y a qu'une œuvre. L'œuvre de Proust, c'est...
Oui, mais parce qu'il est mort avant. Enfin, quand même.
Vous pensez qu'il aurait écrit un second roman après
Non, mais il aurait pu prolonger celui-là.
Mais celui-là.
Oui. Non, je ne dis pas qu'il aurait choisi un autre. Mais il y a une telle différence tout de même entre Ulysses et
Finnegan's Wake.
Oui, Finnegan's Wake. Il y a un tel saut, même dans l'emploi du vocabulaire, que vous ne pouvez pas imaginer un troisième volume là.
Oui.
Parce que ces ressources, en tout cas, sont épuisées. Elles sont plus perfectionnées dans le second livre que dans le premier. Et le premier est plus perfectionné que les nouvelles, qui sont le début de l'œuvre de Joyce. Mais on sent que là, il y a une limite même du sens. Déjà, vous savez, je ne sais pas si vous avez essayé, mais lire Finnegan's Wake, il vous faut vraiment, comme on dit, vous lever de bonne heure. Vraiment, c'est très difficile. Alors là, Proust est un amuse-gueule à côté.
Oui, d'une certaine façon, le prodige de Proust, c'est que c'est en même temps une œuvre très complexe.
Très complexe et en même temps...
Et en même temps très digeste.
Très digeste.
Très digeste.
Oui.
Et
qu'on peut lire par paquet même.
Oui.
Si on connaît le livre, je veux dire, on rattache tout de suite le chapitre, la partie du chapitre, on le rattache tout de suite à ce qu'on a lu.
On y retourne de manière ontologique, oui. Sans doute grâce à ces motifs
oui, certainement. Certainement.
Qu'on peut replacer.
Alors, je veux dire, si vous, moi, vous avez parlé tout à l'heure de Françoise, par exemple. Oui. Mais Françoise, si c'est lié à Proust, ça évoque tout un tas de choses, oui. Y compris la cuisine de Montcombray. Je veux dire, là, c'est très fort de la part de Proust. On se rappelle textuellement mm-hmm. tout ce qu'il a mm-hmm. inventé pour focaliser sur un personnage. Mm-hmm. Et c'est tout de même rare. Mm-hmm. Mais ça aussi, c'est parce que c'est son autobiographie en même temps. Mm-hmm. Et il vous ressort, une autobiographie est toujours beaucoup plus forte qu'une biographie. Je mm-hmm. Et cette autobiographie proustienne, là, vous ne pouvez pas l'éviter. Elle s'impose à vous d'une façon irrésistible.
Vous dites quelque part que la phrase de Proust est ambiguë, la phrase proustienne, et que c'est ce qui fait qu'elle a son analogue en musique, que la phrase musicale est ambiguë comme la phrase proustienne.
Oui, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai voulu dire, là. Excusez-moi, il faut...
Je crois que l'ambiguïté de la phrase proustienne, c'est lié à cette complexité qu'on est en train de décrire.
Oui, oui. Oui, mais je veux dire, Proust ne démolit pas la phrase. Mm-hmm. Il utilise des moyens complexes, même de construction de la phrase, mais il n'a pas du tout l'intention de démolir la phrase, mm-hmm. comme par exemple le Joyce le oui. fait. Plus tardivement. Je pense que Proust, de ce point de vue-là, est encore dans un domaine conservateur. Mmh. Et c'est pas le domaine où il innove vraiment, mmh. je pense. Il innove dans un autre domaine, qui est celui de la grande forme, mmh. celui des rappels, oui. appelons-les les rappels comme ça. Mais oui, pour le reste...
Je reviens à ce texte de Deleuze sur oui. le temps musical, où lui vous compare à Proust. Vous avez, dans les conversations que vous avez eues avec Deleuze, Proust était présent.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui,
le,
oui.
Le petit livre de Deleuze sur Proust, c'est un livre des années où vous le oui. connaissiez.
Vous avez parlé d'une chose que j'aimerais faire, que j'aurais aimé faire plus souvent à l'IRCAM, à vrai dire. Oui. De mettre des gens ensemble qui ne se parlent en généralement jamais. Oui. Non pas qu'ils ne veulent pas se parler, mais parce que leur vie est occupée, parce que les contacts sociaux ne sont pas les mêmes, oui. Les résultats aussi vis-à-vis d'un public ne sont pas les mêmes. Mais là, sur le temps musical, je veux dire, le temps, c'est tout de même pas seulement un concept philosophique, pas un concept musical, mais c'est un concept philosophique. Je veux des gens, des philosophes qui s'écharpent, même avec les musiciens, mm-hmm. comment on conçoit le temps. Et j'avais demandé, parce que je les connaissais tous, j'avais demandé à Barthes, à Deleuze et à Foucault de venir s'expliquer et voir ce qu'ils pensaient comme du temps musical. Et là, j'ai vu les caractères se révéler. Parce que Barthes a lu un passage de la sagesse chinoise, ou je ne sais pas quoi, qui était vraiment très distant. Il ne voulait pas se mêler parce qu'il avait peur de dire quelque chose qui n'était pas convenable, je dirais. Bon, première. Deuxième réaction, Foucault qui a refusé de parler dans le final, dans la discussion
finale. Dans la discussion.
Oui.
J'étais là dans cette discussion.
Il n'a pas parlé.
Il n'a pas parlé.
Il a dit simplement, je refuse de parler parce que je me sens comme un étranger dans ce groupe et si je ne suis pas compétent vraiment, donc je pourrais dire des bêtises, je préfère ne pas les dire. C'était dit. Donc j'ai pas insisté, bien sûr. Et après vient Deleuze. Et Deleuze a été le seul qui a parlé, parce qu'il y avait songé certainement, qui a parlé très librement et d'une façon très intéressante.
C'était à l'époque où il faisait 1000 plateaux.
C'était à l'époque de 1000 plateaux.
Qui avait cette grande complexité et qui est aussi un jeu avec le temps et l'espace.
Oui, oui.
Donc il retrouvait dans votre œuvre ces intrications de plusieurs temps.
Oui, c'est le niveau de temps.
Oui.
Il y a des niveaux de temps.
Des
niveaux de temps différents qui sont marqués d'une façon différente aussi. Soit par quelque chose qui est dans un tel registre de très haut, soit dans un registre grave, etc. Et ça, c'est une des choses vraiment capitales dans la musique. Il faut toujours qu'il y ait des phénomènes complexes, mais il faut toujours qu'ils soient guidés par un phénomène qui ne l'est pas et qui unifie tout le monde. Si vous avez des rythmes très saccadés, par exemple, bon, on dit oui, c'est un passage avec des rythmes très saccadés, très remarqués pour leur côté inégal. Bon, si vous avez uniquement des choses saccadées, des choses inégales dans hauteur, etc., si vous avez l'anarchie partout, ça ne vous intéresse pas très vite, plus très vite. Vous avez trop d'informations, vous ne réalisez pas comment les données d'une information se combinent. Bon, très bien, vous aimez ça. Mais si, par exemple, par rapport à ce rythme saccadé qui est unifié partout, vous avez des différences de dynamique, des différences de timbre, etc., là, vous réconciliez tout le monde. Vous avez dans une musique, vous avez vraiment une force qui est la plus grande, qui est une force d'unification. Et cette force d'unification, ça, vous l'avez chez Proust aussi.
À l'automne, j'ai assisté à un concert à New York où du marteau 100 mètres est découpé avec des morceaux de John Cage.
Oui.
Je me demandais
comment
vous avez accepté ça et quel plaisir ça vous a fait. Vous êtes au courant, j'imagine.
Oui.
C'était assez étrange et en même temps assez satisfaisant avec ces mélanges de temps différents.
Non, mais moi, d'abord, je suis pour éviter les martyrs.
Oui.
Donc, si on prend une œuvre de moi et qu'on la cisaille comme ça, je dis, bon, c'est très bien, c'est une expérience. J'ai écrit ça autrement, mais laisse faire.
Vous laissez faire.
Pour voir comment c'est. Si ce n'est pas satisfaisant, je le dis. Je dis, vous pouvez continuer si vous voulez. Je ne trouve pas ça satisfaisant. Ou bien je trouve ça satisfaisant, continuez-le. Allez dans la même direction. Bon, ça, c'est ma première réaction. La deuxième, c'est qu'en effet, il y a une similarité de sonorité. La sonorité n'est pas faite avec les mêmes instruments, mais il y a une proximité de sonorité qui fait qu'on change de monde et en même temps, on ne change pas complètement de monde. Et il y a ce principe d'unification, même s'il est un peu éloigné de la réalité, qui fait qu'on écoute les choses et on alterne. Et l'alternance devient finalement une condition de confort. Parce que vous savez que vous écoutez A1, bon, A2, vous allez écouter, même si ça revient plus tard, je me rappelle A1, je me souviens de A1. Si vous avez un A5 quelque part, oui, je me souviens de A comme engendrement. C'est-à-dire que il y a deux choses. Ou bien vous avez cette succession régulière de données, si vous voulez, A, 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 etc., A1, A2, A3, A4, A5, sans interruption. Ou bien vous avez un parallélisme d'une structure B qui coupe aussi régulièrement A, B, A, B, A, B, etc. Donc ça vous donne aussi une forme d'agrandissement. Mais ce qu'il y a, c'est que vous pouvez joindre les forces d'agrandissement et de variété. Si je fais A, B, D, E, C, A, B, etc. C'est-à-dire que j'alterne les unités très fortes au point de vue de la composition. Mais il faut qu'elles soient très fortes comme caractère. Mais là, vous avez la possibilité d'entendre des choses qui ne sont, disons, pas similaires, qui sont dissimilaires, mais qui peuvent entrer dans le même échiquier. Je ne sais pas si vous avez vu, ou vous avez probablement vu, les leçons de clé sur l'échiquier. Le principe de l'échiquier est très simple. c'est égal, toutes les cases sont égales, mais elles alternent d'une façon, ordonnée. Eh bien, c'est la même chose en musique. Vous pouvez faire un échiquier musical et vous reconnaîtrez les pièces de l'échiquier ou les mouvements de l'échiquier sans qu'il y ait l'échiquier lui-même. Mmh. Et ça, c'est aussi un des principes de la grande forme que vous pouvez prolonger parce qu'elle vous surprend toujours. Mmh. Elle vous surprend et en même temps, elles ont un air de connu. Mmh. C'est le mélange de connu et d'inconnu et de surprenant qui fait que l'œuvre est intéressante.
Ce concert c'était réussi, hein, l'alternance du marteau sans maître et de John Cage
oui,
étonnant, un peu déconcertant. Mais,
oui, oui. Mais il faut s'y habituer, comme on dit.
Non, mais ça donnait une écoute du marteau sans maître
qui était différente.
Qui était différente et très convaincante.
Oui, oui, oui.
Très convaincante avec ses pauses pour John Cage.
Oui, oui.
Il y avait y compris une pause qui était constituée par les 4 minutes 33 de silence.
Ah oui, silence, bien sûr. Oui,
de John Cage.
Oui, oui.
Entre deux
mouvements. Non, mais moi, je suis tout à fait pour ce type d'expérience. Oui. Là, je disais récemment, enfin, puisqu'on divague un peu, je prépare les concerts de l'ensemble intercontemporain pour le festival de Lucerne. Oui. Bon. Je disais à mes collaborateurs et au directeur du festival, Michel Effliger, je disais, bon, nous voulons innover, mais finalement, nous donnons des œuvres nouvelles, en effet, qui n'ont pas été entendues, mais nous les donnons dans un cadre qui est un cadre qui est celui du concert normal, entre guillemets normal. Parce que vous avez, l'œuvre plutôt légère, qui commence. Ensuite, vous avez l'œuvre lourde qui peut être provocatrice, qui est la seconde partie, qui est la seconde entracte. Et puis, œuvre où tout le monde va s'accorder que c'est accepté dans l'histoire de la musique d'aujourd'hui. Bon. Ça fait A, B, C, c'est-à-dire c'est le concert, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Je dis non, cette fois-ci, il faut faire un programme où vous avez des œuvres qui se heurtent même, qui se contredisent. Vous avez, par exemple, je fais les cantates de Webern à l'intérieur de deux programmes, il faut dire. Je fais Webern, deuxième cantate, première cantate. Bon, très bien, ça c'est la partie, une toute petite partie Webern, très solide. En troisième viendra l'aspect mystique ou politique de la musique, avec Stravinsky, Le Roi des Étoiles, qui est un poème mystique, et l'œuvre de Bartok, qui est au contraire le point de vue politique, quand ça commençait à aller très mal en Hongrie, et qu'il a fait cette œuvre protestataire. C'est-à-dire un qui s'éloigne de la réalité, et l'autre qui se plonge dans la réalité, au contraire. Et puis vous avez des œuvres qui seront nouvelles et qui sont encadrées par des œuvres qui se rapprochent, point de vue stylistique, qui se rapprochent de celles-là. Donc, la suite du programme sera une suite complètement imprévisible pour les oreilles. Et ça, c'est ce que je veux. Je veux qu'on soit surpris par ces contrastes, parce que c'est elles qui nous font réfléchir. Ce sont les contrastes qui nous font réfléchir.
Oui, je crois que j'insiste beaucoup dans mon cours sur la dimension de surprise qu'on doit retrouver dans le texte de Proust, qui doit continuer à nous, nous déconcerter à tout
absolument.
Moment. Peut-être une dernière question. Vous l'avez relu récemment, Proust, ou vous ne le relisez plus, ou c'est un livre auquel vous retournez ?
C'est un livre auquel je retourne de temps en temps, quand j'ai le temps. J'aime beaucoup la littérature étrangère aussi, je dois dire. Surtout en Allemagne, il y a des choses très bonnes. Et donc, je laisse un peu la littérature française sur le côté, pour le moment, parce que je découvre des choses que j'ai jamais lues jusqu'à présent. Ça m'intéresse de savoir comment ces grands Allemands ont Composé. Oui, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas lire comme ça en trois minutes. Les gros romans de Thomas Mann.
Ah, c'est Thomas Mann qui vous pensez.
Thomas Mann, et puis comment s'appelle l'Autrichien qui était de même temps que Joyce aussi.
Musil. Musil.
Musil, ça m'a beaucoup intéressé aussi.
Et vous l'avez lu récemment.
Et je l'ai lu, oui.
Enfin, vous le relisez.
Mais je relis, oui.
Ouais. Bien, mais je crois qu'on va vous remercier pour cette magnifique discussion.